C'est une époque qui fait du bruit. Pleine de machines et de charbon, de musique et de spectacles. C'est à la fois la meilleure et peut-être la pire. En ces temps-là, les hommes rêvent de progrès et font pousser des usines. C'est la révolution industrielle, l'heure de la modernité a sonné. Depuis 1852, la France est un empire. Le second empire. Et pardi, Napoléon III voit les choses en grand.
Paris doit devenir la capitale de l'univers. Détruisez, construisez, envoyez du saké, envoyez du pâté. Je veux du rêve.
La capitale se transforme, grandit et attire. Des visiteurs venus des quatre coins du monde débarquent pour succomber à tous ces délices. L'opéra, le champagne, ouh, les artistes, ah, les Français et leur joie de vivre. Ouais. Derrière ce qui brille, l'ombre est souvent immense. À côté des fêtes somptueuses, péniblement vivotent les pauvres gens. Alors, qui aura le courage de saisir la réalité en face? De voir la joie et la mélancolie, les plaisirs, mais aussi la misère. À la poursuite de la vérité de l'art, deux peintres se cherchent et se bousculent à travers le brouillard.
Youhou! Degas!
Manet!
Degas!
Coucou!
C'est vous?
C'est moi.
Aïe! Aïe! Oui, oui.
Amis, mais également rivaux, Édouard Manet et Edgar Degas s'observent, s'admirent, se jalousent, se fâchent. Compétition, imitation, exaltation, création. Qui l'eût cru? L'histoire de l'art est aussi une affaire de duel. Au cœur de la vie moderne, voici l'odyssée d'Édouard Manet et Edgar Degas, deux zigotos au caractère bien trempé, deux amis parfois aussi brouillés que des œufs. Nous sommes au début des années 1860, au musée du Louvre, à Paris. Il y a foule dans les salles de peinture. Tous les jeunes artistes viennent ici s'exercer en copiant les illustres peintres du passé. Concentré comme du ketchup, un jeune homme brun, le regard ténébreux, tente de reproduire sur une plaque de cuivre une toile de Velázquez, un grand peintre espagnol des années 1600. Un autre zig s'approche, dandy tiré à quatre épingles, la barbe qui frise et l'œil rieur.
Gravé sans dessin préparatoire? Ah ben mon gaillard, je mange mon chapeau si vous y arrivez. Et pourtant j'ai pas faim, je viens de déjeuner.
Manet a-t-il souffert d'indigestion ce jour-là? Sur ce point, la légende reste silencieuse. Edgar et Édouard, en tout cas, ne se sont plus quittés. Oui, bon, j'exagère. Disons qu'ils commencent à se fréquenter. Nés à deux années d'intervalle, dans deux familles largement fortunées, ils portent des vestes de velours et se retrouvent souvent dans les mêmes dîners.
Tiens, vous ici? Chez Berthe Morisot? Incroyable.
Mais c'est vous qui me l'avez présenté.
Oui, c'est vrai. C'est moi, Édouard Manet.
Et de jambon en aioli, tu le sais bien. C'est ainsi que grandit l'amitié. Ces deux gaillards sont pourtant bien différents. Manet, toujours à l'aise, charmeur comme un diable, pourrait séduire une armoire. Ouh, ah oui, hein, je crois qu'elle est séduite. Degas, aussi sauvage qu'un saumon de rivière, vit enfermé dans sa peinture. Quand Manet rit, Degas bougonne. Ces deux-là sont comme le tonnerre et le ciel bleu, ou bien comme une moufle à côté d'une paire de palmes. En théorie, oh, ça ne va pas sur les mêmes cartes postales. Et contre toute attente. Youhou ! Ça fait des étincelles ! C'est peut-être qu'ils reconnaissent un je ne sais quoi l'un chez l'autre, un éclat de génie qui apparaît dans un coin de l'œil. Ou bien une façon de se dire, mystérieusement, dans le silence.
Toi et moi, mon coco. Nous allons révolutionner la peinture.
Tout ceci, bien sûr, n'est que suppositoire. supposition. Manet et Degas observent leur époque. Ils plongent leur regard dans leur siècle. Et mamma mia, il y a à faire, il y a à voir. Notre capitale, au milieu des années 1800, c'est un peu la folie. Les Parisiens courent les divertissements et s'enivrent de loisirs. Le soir, le samedi, le dimanche, on se rend au café, à la patinoire, au théâtre, à l'opéra, au cirque. On va danser dans les bals populaires. Paris, capitale du plaisir, brille de mille feux, mais pas pour tout le monde. Dans le centre, le baron Haussmann fait construire d'immenses avenues bordées d'élégants immeubles qui traversent la ville de part en part en faisant entrer l'air et le soleil.
Moi, empereur de France, je vous dis bravo. Bravo, monsieur le préfet. Il n'y a pas à dire, ça en jette. Par contre, tous ces clopinards qui traînent à 100 haillons, ça fait tâche face aux visiteurs. Bon allez, c'est décidé, j'interdis la mendicité.
Bingo ! Tout ce que la bourgeoisie ne veut pas voir, tout ce que la société rejette, tout ce qui gratte, qui dérange, c'est précisément ça que Manet a envie de montrer. Manet peint en chiffonnier buveur d'alcool, les sans-logis, les prostituées, les petits métiers à quelques sous. Plus tard, Degas peindra lui aussi des repasseuses et des lingères en plein travail. Coïncidence ? Je ne crois pas. Manet et Degas s'intéressent au même sujet. Ce que l'un peint, l'autre a aussitôt envie de le représenter. Mais, en mieux ou d'une façon différente. Ces coups de pinceau, jalousés ici et là, évidemment, ce n'est pas du meilleur esprit, mais c'est tout bénef pour l'histoire de l'art. Manet et Degas sont attirés par le monde du spectacle. Le théâtre, l'opéra, le cabaret sont des lieux de fête où la foule, grisée par la joie, par l'alcool, perd un peu le contrôle. Nos deux camarades peignent l'envers du décor. Ils ne montrent pas le spectacle, mais ses coulisses. Lorsque les actrices, les danseuses baillent le corps à vachy, lorsque plus personne ne les regarde, ils décalent le point de vue, et ça, c'est absolument moderne. Par contre, les regards en coin, là, sur les jeunes filles, ça l'est nettement moins. Le 19e siècle est un siècle qui innove, et ça va vite. On invente la locomotive à vapeur, la photographie, l'ampoule électrique, le cinéma. Le mouvement, la vitesse, c'est fascinant. Et pour l'observer, rien de mieux que les courses hippiques.
Attention, hérisson créatif est sur la ligne de départ. Il est dans le starting block, il est chaud bouillant. 3, 2, 1, 7.
Manet et Degas vont aux courses. C'est très à la mode. Ils peignent les chevaux en train de bondir et les jockeys qui ratent leur départ. On ne peut pas réussir à tous les coups. Oula, attention! Depuis le scandale de sa toile, le déjeuner sur l'herbe, en 1863, Manet est devenu célèbre.
Une femme nue entourée d'hommes en costume en train de pique-niquer. Non mais, on est où là?
Autour de lui se réunit un groupe de peintres indépendants, parmi lesquels Claude Monet, Paul Cézanne, Gustave Caillebotte, Alfred Sisley, Auguste Renoir, Berthe Morisot ou encore Frédéric Bazille. Degas se joint à eux de temps en temps, mais entre son caractère de cochon et ses remarques trempées dans l'acide...
Moi, peindre en plein air? Jamais! Je trouve mon inspiration dans la vie, monsieur, pas dans la bouse!
Oui, ce n'est pas toujours facile. Tandis que Degas braille, Manet brille, ce qui ne les empêche pas de se retrouver. La preuve, ils posent l'un pour l'autre.
Enfin, si je peux me permettre, l'or, c'est surtout Degas qui me peint. Et d'ailleurs, ce n'est pas toujours très très réussi. C'est pas foufou, quoi. C'est pas non plus ce qu'il a fait de mieux. Hein?
C'est une fin de soirée, en 1868, chez la mère de Manet, après le dîner. Degas, invité comme chaque semaine, peint son ami. Il ne le représente ni comme un dandy, ni comme un artiste, mais ramollo sur un canapé, l'air ailleurs, peut-être en train de digérer. À sa gauche, Suzanne, sa femme, joue du piano. La toile terminée, Manet s'approche.
Vous avez donc décidé de faire à Suzanne un double menton ? Et son nez ? Son nez, là, c'est pour jouer de la trompette ? Ah, je sais bien que Berthe Morisot l'appelle la grosse Suzanne dans mon dos ! Mais vous, Degas, vous !
Quelques jours passent. Manet ne tient plus. De rage, il saisit un canif et découpe le visage de sa femme. Lorsqu'il découvre sa toile tronçonnée, Degas, vexé, blessé, part en claquant la porte. Oh, 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 purée! Mais il y a combien de portes dans cet appartement? Oui. Et c'est ainsi qu'éclate une belle amitié. Les tempêtes, hélas, ne font que commencer. Le 19 juillet 1870, Napoléon III entre en guerre contre un royaume allemand qui s'appelle la Prusse. Parmi les peintres indépendants, les réactions sont différentes. Cézanne, Pissarro et Monet décident de quitter Paris.
Il y a bien trop de choses à faire sur cette terre pour donner sa vie à la guerre.
Basile, Renoir, Degas et Manet restent pour défendre leur pays. Plus de pinceaux dans leurs mains, mais des armes. Ils combattent. La guerre, féroce, effroyable, rapproche Manet et Degas. Lorsque les Prussiens assiègent la capitale, ils sont ensemble, dans le froid glacial, le ventre vide, près des canons. Au cœur de la terreur...
Non mais la défense, c'est pas comme ça qu'il faut l'organiser.
Oh, purée. Non mais, ils se disputent.
Laissez-moi donner ma vie pour mon pays.
Ah non, moi d'abord. Moi.
C'est moi, Manet, c'est moi. Mais poussez-vous d'ici.
Oh non, mais ils sont pénibles. Au début du mois de septembre, Napoléon III est fait prisonnier sur le champ de bataille. C'est la fin du Second Empire. Vive la République! Oui, bon, le problème, c'est que la République capitule. Et la défaite, le peuple de Paris, il est en travers de la gorge. Les habitants prennent les armes. Cette insurrection, qu'on appelle la Commune, dure 71 jours et se termine dans un bain de sang. Remués par toutes ces horreurs, Manet et Degas ne sont plus tout à fait les mêmes. Manet n'arrive plus à peindre, Degas a été blessé aux yeux. Et puis, ils ont perdu des amis. Peu à peu, les peintres rentrent d'exil, la vie artistique reprend son cours. En 1874, les indépendants, fatigués de voir leur peinture si nouvelle, si audacieuse, rejetée par le salon officiel, décident d'organiser leur propre exposition. À la surprise générale, Degas s'investit énormément. Alors comme ça, Edgar, vous avez décidé de vous mêler à la bande finalement ?
Eh bien ma foi, oui. D'abord, je les aime bien, Monet, Renoir et surtout Berthe Morisot. Et puis, ce jury du salon, vraiment, je ne peux pas le sentir. La reconnaissance, la gloire, je laisse ça à d'autres. Au vaniteux, par exemple, n'est-ce pas, Manet ?
Ah, je vois, il y a à nouveau de l'eau dans le gaz. Manet a en effet refusé de prendre part à cette nouvelle aventure.
Alors franchement, je ne vois pas pourquoi j'irais montrer mes toiles dans la baraque d'à côté.
Eh oui, le salon, il y expose, lui. Et il est bien vrai qu'il cherche le succès et les honneurs. Les années passent. Manet, très malade, finit par mourir. Le jour de son enterrement, Monet et Degas sont là. Ce qu'ils ressentent, oula, c'est difficile à imaginer. Ils perdent un ami, un modèle, un rival, un compagnon de toute la vie. Et ça, ma foi, ça fait beaucoup. Degas poursuit seul ses aventures. Toujours à la recherche du mouvement, il peint les danseuses de l'opéra. Il s'intéresse à la photo, il fait de la sculpture, de l'aquarelle. De l'aquarelle ? Avec de l'eau ? Hé, hey, Degas ! Attention aux dégâts des eaux ! Degas, Degas, Degas des eaux !
Franchement, Laure, à un moment donné, faut vous arrêter là.
Ah oui ? Eh ben, justement, je suis sur le point de terminer. Édouard Manet et Edgar Degas, amis et rivaux, génies de la modernité, immenses peintres de la réalité, se sont observés, imités, jalousés. Leur relation reste un véritable mystère. Et personnellement, ça me va, tant que le mystère produit de la beauté. Derrière cet épisode, il y a Stéphane Touvenin, Cédric Diallo, Marion Lelay, Fanny Leroy, Élodie Fiat, Clarisse Horn, les équipes du Musée d'Orsay et moi, Laure Grand-Besançon. Manet et Degas n'ont pas seulement peint des courses hippiques ou le Paris du spectacle, mais également le quotidien de familles bourgeoises. Situé de passage au Musée d'Orsay, va jeter un œil à la grande toile de Degas qui s'appelle « Portrait de famille ». Tu verras, oula, ça ne respire pas le bonheur familial. Les Odyssées des Musées d'Orsay et de l'Orangerie est un podcast original de France Inter.